Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie, donc vous pouvez aller sur le site d'Eros, utiliser le code promo HISTOIRE15 et vous aurez un magnifique rabais sur vos achats. Evelyne Ferron, bonjour!
Gabrielle Caron, bonjour!
Evelyne, je suis tellement excitée de notre sujet d'aujourd'hui. On va parler des espionnes.
Hey, c'est pas un sujet facile, mais oui, ça a été beaucoup demandé. Tu sais, quand on regarde la liste des sujets que vous nous demandez, les espionnes, on ne l'avait pas encore fait, mais des fois, vous les demandiez en individuel, des fois, vous preniez juste ce sujet-là en général. Disons qu'il est populaire aussi auprès des gens qui nous écoutent.
Ben oui, moi, je trouve que c'est tellement un sujet badass, là, parce que déjà des espions, je trouve que c'est quand même impressionnant, mais des espionnes, je trouve que c'est une coche de plus. Puis, il y a toujours qui je trouve qui va avec les espionnes, le genre de femme fatale. Tu sais, on leur accole souvent, là, elles séduisent par leur look, elles vont aller chercher des confidences sur l'oreiller. Tu sais, pour moi, dans ma tête, les espionnes, beaucoup dans le cinéma, du moins, il y a beaucoup de sex symboles. C'est tout le temps, sont tout le temps chicks, je trouve. Mais c'est vraiment des conceptions, là,
oui. Pourtant, elles ne l'ont pas toutes été. Tu sais, c'est sûr qu'une Matari, Josephine Baker, ça a marqué l'imaginaire, puis on les connaît, donc je dirais que c'est venu cristalliser dans l'imaginaire populaire, cette espèce de vision de l'espionne, mais je veux dire, celles qui ont bien réussi, on les connaît pas.
Ben parce qu'elles étaient très bonnes.
C'est ça, elles étaient très bonnes, et c'est probablement pas par la séduction qu'elles ont réussi leur travail, mais dans celles dont on va parler aujourd'hui, écoute, on en a une qui avait été amputée d'une jambe après un accident, donc on en a une qui était lépreuse. On n'est pas dans la séduction avec celle-là. Alors, il n'y a pas que ça chez nos espionnes, mais elles sont dures à trouver. Donc, souvent, celles qu'on retient, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, leur identité a été révélée ou des fois plus tard, quand, bon, des documents scellés ont été rendus publics. Mais, je veux dire, les très, très bonnes espionnes, leur nom n'est pas passé à l'histoire. Souvent, elles ont changé d'identité puis on ne saura pas ce qu'elles ont fait. Donc, c'est sûr que pour le cinéma, c'est beaucoup plus le fun dans les James Bond et partout mettre des femmes, c'est ça, toujours sexy, en robe un peu trop moulante avec la poitrine beaucoup trop dégagée et un tube de rouge à lèvres qui se révèle être du poison caché entre deux boules.
Mais moi, ce qui me fascine toujours dans les films, c'est pourquoi les espionnes ont des talons aiguilles? Comment tu peux courir avec des talons aiguilles? Aucune idée. Je comprends pas. Mais, mis à part de ça, j'adore les espionnes.
On pourra en parler pendant des heures. J'aime tellement le fait que tu aies souligné ça. Ben voilà, avec l'espèce de robe à la Jessica Rabbit là, qui descend quasiment jusqu'au nombril, puis avec la poitrine qui ressort. T'sais, tout ce qu'il faut pas pour être confortable, pour faire ta job et le cliché du cinéma. Mais j'avoue que les talons aiguilles, à chaque fois, c'est comme... Puis la pauvre actrice, des fois, qui doit courir dans des talons.
Ben oui, je le sais. Mais là, je veux revenir parce que tu as parlé de Matari, déjà.
Oui.
Matari, je pense que c'est une des plus grandes espionnes. Mais quand tu commences à creuser un petit peu, elle est comme décevante, Matari. Parce que
elle est très décevante.
J'ai vraiment l'impression que son aura est beaucoup plus grande que la réalité de Matari. Parce qu'on va se le dire, Matari, là, c'est une belle femme mythomane. That's it, là.
Ouais, puis qui a eu de l'audace au niveau du spectacle, par contre, parce que c'est une des premières à oser se dénuder sur scène. C'est plus de ce côté-là, en fait, qu'on devrait la retenir. Une grande horizontale, mais une femme de scène qui a osé briser des tabous, en fait, au niveau de l'exposition du corps de la femme sur une scène, avec Colette et tout ça, là, elle va entrer dans une catégorie. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est là qu'elle est la plus intéressante. Comme espionne, elle est décevante parce qu'elle est pas bonne.
Non.
Et c'est pour ça qu'on la connaît.
Principalement parce qu'elle dit à tout le monde qu'elle l'espionne.
elle a vraiment pas bien fait sa job, tu sais. C'est parce qu'elle a joué des deux mauvais côtés en même temps aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que non. Comme espionne, tu sais, c'est ça. Le constat des historiens, des politologues, de tout ce que c'est, vont dire, ben, tu sais, elle a peut-être fait un peu d'espionnage, mais on s'entend que comme agent secret, c'était pas elle qui était la plus efficace. Tu sais, c'était du rien, là. On voulait justement qu'elle allait chercher des petites confidences sur l'oreiller des grands princes allemands, etc. Mais... c'est de ce côté-là, elle a cherché juste l'argent, puis il y a ça aussi, c'est une femme qui va chercher l'argent jusqu'à la fin. Mais elle a été fusillée dignement. Dans sa façon d'affronter la mort, les témoignages qu'on a sont assez intéressants, par exemple. T'sais, à la fin, elle a comme fait ce côté peut-être mythomane-là, là, elle a affronté, on dirait, la mort de face. Ça, c'est la chose peut-être la plus intrigante dans sa fin, parce que c'est quand même une débandade. Là. À la fin, ça va vraiment pas bien, mais elle affronte la mort avec dignité. Et ça, c'est tout à son honneur, par contre, parce que on s'entend, là, elle se fait fusiller à froid. Là, c'est...
Mais oui, parce que pour revenir un peu avec l'histoire de Mata Hari, là, elle, me semble, elle est néerlandaise, si je me trompe pas.
Oui, effectivement. Elle est née aux Pays-Bas du 19e siècle, dans une quand même une famille, on va dire, assez prospère. Là. Son père était, il me semble, si je me souviens bien, le chapelier, là, il faisait des chapeaux, des choses comme ça. Puis, elle a eu la chance de pouvoir parler plusieurs langues. Et ça, c'est un critère hein, chez nos espionnes. Les bonnes espionnes vont être polyglottes. Puis, ils vont être polyglottes à un point où l'accent n'est pas toujours facile à identifier, ce qui donne un avantage. Et ça, elle avait ça, par exemple, parce que de par sa vie, on va dire, quand même assez dorée là, dans les Pays-Bas, elle est bien éduquée. C'est pas une femme qui arrive, contrairement aux grandes horizontales dont on a parlé, qui arrive souvent, bon, on va dire, de milieux pauvres, de milieux difficiles, qui n'ont pas toujours l'éducation. Là, on n'a pas ça. On a une femme éduquée, là, tu sais, qui parle le français. En plus d'une Irlandaise, elle parle le français, elle parle l'anglais, elle parle l'allemand. Fait que, tu sais, elle a quand même quelques langues à son actif, qu'elle semble bien maîtriser. Certains vont dire qu'elle parlait aussi un peu, quand même assez bien l'espagnol. Fait que, tu sais, quand même, on s'entend qu'elle a quand même un don pour les langues. C'est pas une idiote, là, pour réussir à en parler autant. Et de ce qu'on en sait, ben, son père a demandé sa fortune. s'écroule.
Les chapeaux ne font plus fureur.
Voilà. Et ben, tu sais, elle est jeune. Puis pour continuer à vivre, je dirais, une vie dans le luxe qu'elle a connu, ben, elle va...
Attends, je pense que je le sais. Elle s'est mariée.
Oui.
Puis est allée habiter aux Indes, me semble. Elle est allée habiter en Inde avec son mari qui était comme soldat ou quelque chose du genre.
Bingo! C'est capitaine d'armée. Elle avait 18 ans, elle était super jeune. Puis effectivement, elle s'en va. Là, on appelait ça les Indes orientales néerlandaises, mais essentiellement aujourd'hui, c'est les îles indonésiennes. C'est l'archipel d'Indonésie, plus particulièrement. Puis tu sais, c'est là où effectivement, elle va dire ça. Là, c'est là où elle est un problème. Hein? Est-ce qu'elle est un problème avec les historiens? Elle ment.
Elle est pas fiable.
Elle ment tout le temps. Fait que c'est un peu comme plein de femmes qui ont caché leur âge ou des choses comme ça. C'est un peu comme Sarah Bernhardt aussi. T'sais, c'est des femmes qui ont dit beaucoup de choses, mais sont difficiles à suivre. Et c'est le problème avec Mata Hari. Parce que, tu sais, elle va dire que c'est là qu'elle a vu les femmes avec leur habillement. Ça, c'est le costume de scène, effectivement. Le personnage de scène va commencer à naître en Indonésie. Pour les couleurs, les vêtements, oui. Mais, tu sais, elle va vraiment voir les danseuses de temple javanaises, là, tu sais, puis elle va dire « Ah oui, ça, c'est... ça pourrait apporter un petit quelque chose. » Et ça va rester dans son derrière de tête, mais elle est avec un mari extrêmement violent qui est alcoolique, qui la trompe, puis à un moment donné, ils ont un enfant. Son fils, de ce qu'on en sait, serait mort d'empoisonnement. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Ça n'a jamais été très clair, mais ça fait en sorte que, tu sais, elle prend ses clics et ses claques, puis elle s'en va à Paris, puis elle espère s'en sortir. Mais elle n'a pas d'argent. C'est une femme séparée qui n'a rien. Là, donc, c'est assez compliqué. Elle n'est plus une jeunesse quand elle arrive quand même à Paris. Là, elle a plus de 25 ans, ce qui, pour l'époque, est quand même dans un autre... est à l'âge où, en théorie, justement, tu es une femme mariée et tu as peut-être des enfants. Là. Mais c'est la belle époque. On revient toujours à notre histoire des grandes horizontales. C'est la belle époque. Et c'est l'époque où Paris permet
toute
cette espèce de vie de femme plus indépendante si elles choisissent le monde de la sensualité, de la sexualité. C'est ce que Mata Hari va faire. Ça devient une grande horizontale, comme on en a parlé. Mais tu sais, c'est l'époque des musicals, c'est le Moulin Rouge. On est vraiment dans cet univers-là. Mais tu sais, elle n'est pas citoyenne, elle n'a pas le droit de vote. Elle arrive de nulle part, là, elle arrive d'Indonésie. Fait que c'est pas mal, la seule solution, c'est d'utiliser ses charmes pour réussir à s'en sortir. Ce qui est étonnant, c'est quand on la regarde, quand tu regardes ces photos, t'en penses quoi? Parce qu'il y a ça aussi quand même chez Mata Hari qui est assez étonnant. Qu'est-ce que t'en penses quand tu la regardes?
Quand j'ai vu, tu sais, la photo qui me vient en tête, là, c'est celle où elle est toute dans son costume, j'ai envie de dire son costume de baladie, là, mais je sais que ouais, c'est pas ça, mais avec des perles, la petite brassière, les voiles et tout. Donc, c'est très ben exotique pour l'époque, je vais dire. Puis je trouve qu'elle joue beaucoup sur l'ambiguïté. je pourrais pas dire elle est de quelle nationalité, je pourrais pas dire elle vient d'où. Puis il me semble que dans mon souvenir, elle aussi a beaucoup joué là-dessus. D'où je viens, où j'ai grandi, suis-je la descendante d'une déesse? C'est ce genre de truc. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt aussi, ben, elle était dans les premières là, à être sexy sur scène. Fait qu'elle avait vraiment un gros public. Elle a vraiment, vraiment attiré, puis elle a été ultra populaire. Là.
Oui, mais elle n'a pas les traits. Tu sais, quand tu regardes d'autres grandes horizontales, quand tu regardes les danseuses de cabaret qui vont arriver après, whoop, elle détonne quand même au niveau physique. Elle n'a pas une grosse poitrine. Et ça nuit, en fait, pour danser, pour des choses comme ça. Et c'est un peu la raison pourquoi elle va être aussi... Elle cache ses seins, alors que c'est l'époque où les femmes, des fois, vont des fois légèrement montrer le haut. Et elle, elle va faire l'inverse. Des fois, les voiles vont tomber et elle va révéler le bas.
Oh, son pubis!
Oui, son pubis. Et tu sais qu'à un moment donné, et là, c'est une tranche de vie, merci Facebook, ou plutôt pas merci Facebook, j'ai un avertissement sur ma page Evelyne Ferron, historienne, sur Facebook, parce que j'ai osé, à un moment donné, mettre une photo d'elle, le pubis à l'air, et Facebook m'a tapé sur les doigts en me disant que j'avais osé publier quelque chose. Oui, j'avais enfreint le règlement avec des photos obscènes. Alors voilà, mais c'est la première en fait sur scène à faire ça, puis c'est parce qu'elle avait peut-être moins quelque chose d'attirant en haut, elle va provoquer en y allant avec le bas. Et ben c'est ça, on peut les voir aujourd'hui là, ces photos-là, mais t'sais, pour nous c'est pas choquant là. Mais à l'époque, elle arrive en fait sur les scènes en faisant ce qu'on appelle la danse des sept voiles. On est à l'époque d'Oscar Wilde qui a repris un mythe ancestral de Salomé qui dérive un peu des mythes mésopotamiens de la déesse Ishtar. Bon, on entre dans tout un univers où justement elle va faire des danses comme ça un peu à la javanaise mais inventée. Là, tu sais, c'est pas javanais pantoute, mais à l'époque à Paris, on capote. Puis là, ben tu sais, il y a un voile qui tombe, oh, puis une épaule qui sort, un autre voile. C'est le striptease qui est en train d'arriver sur scène. Là-dessus, elle est une pionnière, là, vraiment. Mais elle est tombée à l'époque qu'il fallait à Paris pour le faire. Autrement, cette femme-là n'aurait jamais réussi. Là. Mais c'était la belle époque et c'est le moment où les hommes riches et fortunés voulaient voir ça, payaient pour ça et voulaient coucher avec la dame qui était sur scène après. Et inquiète-toi pas qu'elle l'a fait.
Eh oui, mais là, si on forward un peu, si on avance à son époque, et là, j'emploie les guillemets, là, espionne,
ouais.
C'est la Deuxième Guerre mondiale, si je me trompe
première.
Pas. Première Guerre mondiale?
Oui, 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 elle est née à la fin du 19e siècle, c'est une espionne de la Première Guerre mondiale.
OK, fait que là, Première Guerre mondiale arrive, elle est à Paris, mais elle louche parce qu'elle n'est pas française.
Elle n'est pas française, elle n'a pas la citoyenneté, et en théorie, elle est néerlandaise, mais qui était jadis mariée à un néerlandais. Mais elle voyage vraiment beaucoup en Europe à cause de sa renommée. Mais là, elle commence à vieillir aussi. Il faut donner ça à l'autre de la Première Guerre mondiale, du moins pour le métier qu'elle pratique. Elle a besoin d'argent. Fait que, au départ, ce qu'on en sait, c'est que comme elle parle plusieurs langues, les Allemands s'intéressent à elle avant les Français. Et les Allemands auraient voulu qu'elle fournisse des renseignements un petit peu sur ce qui se passait en France, où est-ce que vous voyez des troupes passer dans les rues, etc. C'était, tu sais, quand je dis que c'est pas une bonne espionne, on lui demandait pas des choses vraiment compliquées de ce qu'on en sait. T'sais, c'était juste de dire où étaient stationnées les troupes, c'est quoi un peu l'ambiance à Paris, qu'est-ce qu'elle entend parler par les hommes les plus fortunés, est-ce qu'ils ont tendance à vouloir aller dans d'autres pays pour parce qu'ils ont peur de la guerre ou des choses comme ça. Mais la France s'intéresse à elle aussi parce que c'est su qu'elle est polyglotte, qu'elle parle plusieurs langues. Et la France, ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'elle couche avec les têtes couronnées, ou du moins les princes et les hommes les plus nantis de l'Allemagne, de la Russie aussi. Pour essayer d'avoir de l'information sur comment les Allemands s'organisent finalement dans le contexte de la guerre. Et ben là, ben, ce qui va arriver, elle est un peu victime de son époque aussi, est naïve, a besoin d'argent, fait qu'elle dit oui aux deux. Donc, agent double ici, dans un contexte explosif, vraiment sensible. Et à un moment donné, ben, elle va se faire... et les Allemands et les Français vont commencer à la soupçonner chacun des deux côtés. Mais c'est la France, en fait, qui vraiment établit qu'elle est une espionne pour les Allemands. Ils sont vraiment pas contents parce qu'ils l'avaient embauchée aussi, quand même. Et ben voilà, dans le fond, elle est arrêtée en 1917. Fait que tu vois, on est quand même... c'est pas tout à fait la fin de la guerre. Et elle va avoir un procès vraiment très, très rapide. Et on va l'accuser, oui, d'avoir été espionne contre la France pour les Allemands. Et bon, qu'elle aurait décodé des télégrammes. C'est surtout ça qu'elle aurait fait d'après les Français. Son nom d'agente aurait été Hoffmann 21 pour 21e agente. Mais ça, on tombe dans le... pas clair. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Est-ce que ça a servi juste pour s'en débarrasser? Parce que là, les Français n'aimaient pas le fait que ben, ils les aient baisés des deux côtés. C'est ça l'idée. C'est un procès qui est quand même assez rapide dans son cas. Puis voilà, elle est condamnée à être fusillée tout simplement. Là. Puis son corps va être jeté dans le fossé de la forteresse de Vincennes, comme on faisait à peu près avec tous les traîtres à la nation là, à l'époque. Là. Puis il faut imaginer ce qui a été décrit, c'est qu'elle est attachée à un poteau avec un. Il y a des photos de ça d'ailleurs, là, avec un sac sur la tête. Puis elle a demandé à ce qu'on l'enlève. Elle voulait voir les hommes, elle les a regardés. C'est là que je te dis qu'elle a été plus digne, peut-être. Mais tu sais, faut-tu l'imaginer attacher les bras derrière un poteau, passer qu'elle va mourir fusillée. Fait que, d'habitude, les gens meurent avec des sacs sur la tête pour pas qu'ils voient ça, au moins. Puis que ça se passe rapidement. Elle a dit non, vous allez enlever le sac. Tant qu'à mourir, je veux voir la mort de face. Il y avait 10 hommes armés, puis elle a été fusillée par 10 hommes en même temps. Donc, elle est tombée d'un coup sec, puis c'était fini, puis son corps a été jeté dans une fosse commune. Si elle est morte, Matari, effectivement, sa légende va continuer à ce moment-là. Fait que c'est ça, c'est pas une bonne espionne parce qu'elle a fait ça pour l'argent, puis elle a fait ça pour...
Elle prenait pas ça au sérieux, j'ai l'impression. Elle réalisait pas le danger.
Mm. Elle a pas compris la gravité de ce qui lui était demandé et du rôle qu'elle avait là-dedans. C'était un jeu, comme être une grande horizontale était un jeu, et ça l'aura desservi au point où elle va être condamnée comme étant traître.
Mais là, on peut-tu parler d'une bonne espionne?
Hein? Quoi? Une bonne espionne? Je ne sais pas de quoi tu parles! oui, en fait, on va s'en aller à... On va reculer dans le temps. Je t'amène à la période de la guerre de sécession aux États-Unis. Okay. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Et je dirais des noms d'espionnes avant la Première Guerre mondiale, on n'en a pratiquement pas, je pourrais être honnête. Là. Souvent parce qu'elles agissaient avec leur mari. Donc, c'est le nom du mari qui va être passé comme étant l'espion, la femme étant juste la pauvre femme... qui suit le mari alors qu'elle a peut-être joué un rôle beaucoup plus important que prévu, encore une fois. C'est ça, il y a plusieurs espionnes probablement qui dont le nom nous a été perdu parce que c'est le mari qui a obtenu le
crédit.
Le flambeau, voilà. Alors qu'elles ont probablement fait plus parce qu'elles étaient des femmes anonymes, ce qui aide énormément. Mais donc, quand on réussit à avoir des femmes avant la Première Guerre mondiale, c'est assez rare, mais quand on en a, c'est le fun. Et je te parle d'Elisabeth Van Loo, qui vient là, d'une famille de Virginie, qui était vraiment contre l'esclavage, alors que bon, la Virginie, c'est une zone compliquée à l'époque sur ce débat-là. elle va déjà aider des esclaves à se sauver. Elle est vraiment très impliquée, en fait, dans tout ça avec sa famille. Donc, elle, ça vient vraiment de sa famille. Là. Elle est née dans une famille qui était contre l'esclavage, dans un État qu'il prônait, par contre. Et aussitôt que son père est mort, en fait, elle et sa mère ont libéré tous leurs esclaves. Ils étaient quand même assez novateurs là, dans ce... à cette époque-là, je te dirais. Et arrive donc ce qui doit arriver aux États-Unis... la guerre de sécession. Donc, sur ce sujet très sensible qui est toute la question de l'esclavage. Et comme elle habite un État sensible, qui est l'État de Virginie, qui va être associé beaucoup plus aux confédérés, elle est tellement pro-abolition de l'esclavage qu'elle est pro-Abraham Lincoln. Donc, elle est vraiment du côté de l'État de l'Union. Donc, les États qui étaient pour l'abolition de l'esclavage et qui... on est vraiment dans autant n'importe le vent.
qui... Hey, j'ai ce référent-là! Yeah!
Yeah! ceux qui veulent vraiment que tout ça se termine parce que ça n'a pas de bon sens qu'aux États-Unis, ça perdure, qui sont pour la liberté de tous et qui considèrent donc que les Noirs sont des êtres humains à même titre qu'eux et qu'il n'y a pas de différence. Donc, elle est vraiment dans cette mentalité-là. Donc, habitant la Virginie, venant d'une famille qui avait quand même des plantations... elle va devenir espionne pour le compte des armées de l'Union. Et elle va fournir de l'information sur ce qui se passe dans l'État de Virginie aux armées de l'Union pour essayer d'aider à ce que la guerre se gagne par les armées de l'Union et que ce soit Lincoln qui remporte la guerre de sécession. Il y en a probablement eu beaucoup d'autres, des femmes qui ont fait des choses comme ça, je te dirais, pendant cette guerre-là, mais leurs noms, comme je te disais, sont probablement pas passés à l'histoire. Ici, c'est qu'on a une femme qui agit de manière plus indépendante. il va y avoir une espèce de réseau d'espions en Virginie là, qui va s'appeler le Richmond Souterrain. C'est un peu le titre qu'on va leur donner. Ouais, mais c'est l'époque pour ça, tu sais, je veux dire. Le Underground Railroad, qui n'était pas un chemin de fer pantoute pour faire passer les esclaves, c'est la même chose, tu sais, on était à la même époque.
C'est là. Ça que j'allais dire. J'allais plugger d'ailleurs un merveilleux livre qui s'appelle Underground Railroad, même en français, et c'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment... excellent. Mais Underground Railroad, j'ai bien de la misère.
Railroad, c'est un tongue twister.
Mais c'était un chemin donc vers la liberté pour les esclaves qui se sauvaient du sud pour aller vers le nord, c'est
c'était
ça?
Des réseaux, ils passaient la nuit, ils logeaient chez des gens. Des fois, oui, ils pouvaient passer dans des souterrains, mais il n'y avait pas de train à proprement parler. Puis ils passaient pas nécessairement par les chemins de fer. En fait, c'était tout bien trop visible. Mais c'est en fait toute une organisation. On pourrait inclure Harriet Tubman d'ailleurs comme espion entre guillemets, pour aider à faire passer les esclaves vers les États où ils étaient libres. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça se passe en même temps. Là. Alors, pendant que Elisabeth, elle, fournit de l'information pour que la guerre se gagne du bon côté, bon, au même moment, ce chemin de fer souterrain, comme on l'appelle, lui aide les esclaves à quitter, en fait, les États où c'est encore maintenu pour leur offrir une liberté. Ça se passe vraiment en même temps. Mais d'ailleurs, tu sais qu'ils ont fait une série avec ce livre-là sur Netflix, c'est terriblement violent.
Oh, ben comme l'époque, là, en même
oui,
temps.
Oui, mais honnêtement, visuellement, là, vous avez trouvé
12 Years a Slave
horrible. Je vous jure que ça accote. Tu sais, c'est la série quelque chose. C'est nécessaire, mais tu sais, mettons, vous dites, ah, lire le livre. La série existe. Elle est sortie sur Amazon Prime, en fait, il y a 2 ou 3 ans, là, si ma mémoire est bonne. Mais
pour auditeurs avertis, disons ça comme ça.
Oh, ouais, c'est j'en ai encore des frissons, mais les acteurs sont vraiment fabuleux, ils ne sont pas tous très connus, fait que tu sais, c'est vraiment chouette. Et ben voilà, fait que notre Elisabeth, elle a l'air de la gentille dame, oui, qui est peut-être plus pro-abolition de l'esclavage parce qu'elle a libéré ses esclaves, mais jamais les gens réalise que ce qu'elle envoie, en fait, beaucoup, beaucoup de messages via ce système-là. En fait, elle passe des messages aux soldats. Elle va même des fois cacher des messages dans des coquilles d'œufs vides. Donc, elle va percer, tu sais, un œuf de... Tu sais, tu vas faire des cocos de Pâques, tu perces, mais tu ne brises pas la coquille, puis tu fais sortir le jaune. Ben, elle va faire exactement cette stratégie-là, mais ils vont rentrer des papiers là-dedans, puis ils vont donner l'impression qu'ils livrent des œufs ou des choses comme ça, des œufs frais, puis dans les faits, il n'y a pas d'œuf là-dedans, c'est des papiers, et c'est comme ça qu'elle passe des messages codés.
Hey, mais tu sais, ça me fait beaucoup penser à La bicyclette bleue de Régine Desforges, qui est un roman pendant la Deuxième Guerre mondiale sur la résistance française, justement. Et ça s'appelle La bicyclette bleue parce que la jeune fille envoie des messages à la résistance, mais en les cachant à l'intérieur de sa bicyclette. Fait que c'est un peu le même genre de stratagème là, pour pas se faire pogner.
Ben, c'est un peu comme le mythe de Cléopâtre et son serpent à spic caché dans des figues, je plaisante.
Mais serpent.
C'est ça qui a jamais existé. Mais elle est quand même astucieuse, tu sais, de ce point de vue-là. Elle fait quelque chose qui est assez intéressant. Et à la fin de la guerre, quand la guerre de sécession est terminée, effectivement, ce sont les armées de l'Union qui l'emportent. Et ben, Lincoln meurt, là, ça y prend pas ben de temps. Donc, le président qui suit quand même... Ulysses Grant va être reconnue. Donc, c'est pour ça qu'on la connaît, c'est qu'on va reconnaître son travail pendant cette guerre-là. Même si elle, en Virginie, parce que sa famille avait libéré des esclaves, elle n'était pas si bien vue que ça par sa communauté. Hein. Mais les gens ne suspectaient pas quand même qu'elle était une espionne pour les armées de l'Union. Mais tu vois, elle va déjà être reconnue tout de suite après la guerre comme ayant été une aide précieuse. Puis elle est même rentrée là, dans l'espèce de Military Intelligence Hall of Fame, si je me trompe pas, là, des États-Unis en 1993. Fait que c'est un petit peu cette reconnaissance-là, en fait, de Ulysses Grant qui a fait que cette femme-là a été connue comme espionne.
Wow! Mais je savais donc ben pas. Mais c'est vrai que l'avantage d'être une femme à cette époque-là, surtout, c'est qu'il devait vraiment passer sous le radar, là, parce que les hommes devaient pas se méfier des pauvres simples femmes.
Non, puis, tu sais, même si sa famille avait libéré des esclaves, tu peux pas toujours suspecter que tu es dans un réseau comme ça, souterrain, qui fournit de la parce que de comment t'as passé l'information, tu sais, je veux dire, voilà, dans des œufs vides, là, les gens l'ont pas suspecté.
OK. Et hey, puis avant qu'on enregistre, tu m'as parlé d'une espionne aux Philippines.
Oui, mais là, on est rendu dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais oui, ça, on va aux Philippines. Je peux te parler d'une espionne des Philippines, lépreuse.
Mais regarde.
Hein? C'est là, on est loin de ma théorie et de la séduction comme.
De la séduction.
On n'est pas du tout là-dedans, mais on est dans le contexte où c'est le Japon, en fait, qui est une menace pour les Philippines pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1942-43, là. Les Philippines, c'est pas un endroit qu'on traite très bien. Hein. Pourtant, c'est souvent des endroits où on atterrit, où les bateaux arrivent, ils sont très centraux, mais, tu sais, je veux dire, les populations des Philippines, là, ça va pas toujours très bien. Puis les Japonais, parce que t'as beaucoup aussi de descendants de Chinois dans les Philippines, les Japonais ont tendance à être particulièrement violents avec ces gens-là aussi. Elle s'appelle Josefina Guerrero et ben voilà, c'est une femme qui va contracter la lèpre. Son mari va la rejeter comme tous les lépreux. On est vraiment dans une histoire de lèpre standard, la maladie qui est ostracisée à l'os, à l'extrême.
Est-ce que c'est contagieux, la lèpre? Dans ma tête, oui. Ah, c'est ça.
En théorie, ça l'est. Donc, c'est pour ça que les gens se font toujours envoyer dans des léproseries ou des endroits où ils sont tous ensemble. Parce que oui, effectivement, c'est contagieux. Puis, on ne veut plus qu'elle voie sa fille. C'est une mère de famille, là, t'sais, mais elle a la lèpre. Donc, elle est comme tant de gens à tant d'époque, on l'éloigne complètement de sa famille. Et là, c'est sûr que tu es dans un contexte de guerre. Fait que le matériel médical...
Ah, il n'est pas arrive accessible.
Pas, c'est ça, fait que ça dégrade, sa condition dégrade quand même assez vite, mais elle se dit, moi, si je veux guérir, ça me prend des médicaments qui vont arriver des États-Unis, entre autres, et autres, et pour ça, il faut que j'aide à libérer les Philippines. Donc, elle va entrer dans le mouvement de résistance. Elle se dit, j'ai rien à perdre, je suis en train de mourir de toute façon. Donc, le seul espoir que j'ai de revoir ma fille, c'est de guérir de la lèpre, et le seul espoir que j'ai pour guérir de la lèpre, c'est de faire en sorte que les Philippines soient réouvertes à l'arrivée des médicaments.
On peut guérir de la lèpre? Dans ma tête, un coup que tu l'as, tu commences, tu te désintègres jusqu'à temps que tu n'existes plus.
Ça, c'est très biblique. C'est très biblique. Il fut pendant longtemps, comme plein de maladies, t'en mourais, mais là, on est rendu au 20e siècle. Donc, c'est une maladie qui est mieux connue, qui peut être traitée. Ça dépend du stade auquel tu es rendu, mais oui, ça se traite. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la lèpre va probablement survivre s'il a accès aux médicaments. Là.
Okay.
Parce que c'est pas une maladie qui est éradiquée complètement en Inde. Là. Il y en a encore beaucoup, là, des léproseries ou des choses comme ça. On appelle ça les castes qui sont un peu négligées. Non? Mais tu sais, l'avantage d'être lépreuse, c'est que les Japonais t'approcheront jamais.
Mmh.
Et c'est là où elle est devenue super intéressante parce que elle pouvait passer des messages puis tout ça parce qu'il faisait pas de fouilles, il voulait pas la toucher. Elle était lépreuse. Donc ça, on est vraiment à l'opposé de ma théorie. Tu sais, t'as la lèpre, fait que.
Mais c'est du génie en même temps.
Ah, c'est terrible comme mode de vie. Elle souffre, la dame. Là. Elle est très malade, mais elle a cet avantage que les Japonais ne feront jamais de fouilles sur elle. Fait qu'elle était capable de passer comme ça des messages à des gens qui continuaient à les passer un petit peu partout. Puis ça lui permettait des fois de s'approcher de où est-ce qu'étaient installés les Japonais. Elle a fait de la cartographie pour identifier les forteresses des Japonais, essayer d'envoyer l'information aux Américains. Fait qu'elle a quand même travaillé très, très fort. Puis à la fin, quand elle a senti que les Américains allaient gagner, là, on est rendu vers la fin de la guerre, là, genre en 1944. Elle va genre, je sais pas combien de kilomètres elle a fait là, dans la forêt, mais c'est vraiment beaucoup. Elle aurait pu se faire tirer dessus n'importe quand. C'est pas arrivé. Puis elle a réussi à retrouver les Américains. Elle les a aidés à les guider pour dire, ben là, si vous attaquez là, ça va marcher, vous allez libérer la capitale qui est Manille, qui est une ancienne capitale espagnole dans les Philippines. Et là, c'est sûr que elle est malade. Là. Donc, on va l'envoyer dans une léproserie, mais elle va continuer à fournir de l'information à la fin de la guerre aux Américains, puis ça va aider, en fait, le gouvernement à comprendre que... le gouvernement américain, qu'on traite encore mal les Philippins, en fait, même après la guerre, ce qui n'était pas supposé. Finalement, ça n'a pas été si libéré que ça. À l'interne, les Philippins sont quand même maltraités. Et parce qu'elle réussit à envoyer ce message-là, ben là, le gouvernement américain a agi, puis ils ont fourni les médicaments, puis ils l'ont aidé. Fait que elle a, sans dire qu'elle a guéri à 100%, elle a été capable d'immigrer aux États-Unis.
Ah, oh, ouais?
Ouais. Pourquoi aussi, c'est qu'on voulait étudier la maladie, mieux la comprendre pour mieux la soigner. Donc, elle a réussi à avoir un visa pour aller aux États-Unis pour être soignée.
Elle a été espionne,
lépreuse
et immigrante aux États-Unis après la guerre.
Immigrante aux États-Unis. Puis elle a aussi dénoncé les conditions de léproserie pour faire réaliser au gouvernement américain que vous avez peut-être libéré les Philippines, mais les Philippins c'est vivent encore mieux. Une vie de marde, faites quelque chose. Ouais, je dis pas que ça a été parfait, on s'entend. Là, l'histoire des Philippines, c'est une histoire qui est très complexe. Mais tu sais, je veux dire, on n'entend pas parler d'héroïne des Philippines
rare,
souvent.
C'est vrai.
et une lépreuse qui sauve du monde. Mais, tu sais, un peu dans le même ordre d'idée, je te dis, sont pas toutes sexy. Virginia Hall est vraiment quelque chose. Je sais pas si on a le temps, là, mais
oui, si t'en veux. C'est qui, Virginia Hall?
Une qui est vraiment intéressante. On est toujours dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Mais, tu sais, c'est une Américaine, OK? Et c'est une linguiste. Pas de surprise ici. Donc, elle est vraiment bonne pour les langues. Elle en parle plusieurs langues. Et c'est une femme qui va voyager un petit peu partout. Elle va aller étudier en France, en Allemagne. Et puis, c'est une femme qui va travailler genre en Pologne, mais avant la guerre. Donc, okay. On est dans les années 30 quand elle fait tout ça. Puis, en 1933, genre, elle s'en va chasser quelque part. Je ne sais pas trop dans quel contexte, mais elle se fait tirer dessus, balle perdue de ce qu'on en sait. Puis, elle a été amputée. On est obligé de lui enlever une jambe. Donc, elle va avoir une prothèse à l'époque où ça commence à peine, les prothèses pour des jambes.
Hey, ça devait pas être smooth comme prothèse, là.
Non. Et c'est un peu ce qui fait que les États-Unis, ben, tu sais, elle, ce qu'elle visait, c'était une job de diplomate avec tout le parcours qu'elle avait. Ben, ça met fin à sa carrière comme diplomate aux États-Unis, malheureusement. Donc, elle se dit, ben, qu'est-ce que je peux faire? La guerre éclate, la Deuxième Guerre mondiale. Elle a ce talent des langues. C'est pas une jambe qui va l'empêcher de bien travailler. Fait que elle devient ambulancière pour les troupes françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Comment peut être ambulancière à juste une jambe? Comment elle peut soulever?
Ben, c'est pas elle qui conduit!
Non, mais même soulever un brocard, comment tu peux faire ça?
Hey, avec la prothèse, t'as quand même ton équilibre, tu sais, je veux dire. Fait qu'elle le fait, mais très vite, les Français vont réaliser que cette femme-là, qui est une volontaire, aïe aïe, elle parle à peu près toutes les langues les plus importantes d'Europe. Elle peut déchiffrer je sais pas combien de messages. Donc, elle va tout de suite rentrer dans ce qu'on appelle les services, bon, on pourrait dire les services secrets, là, français, à peu près, là. On va lui donner un faux travail pour pas que les gens la suspectent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une Américaine. Elle a une couverture. C'est une Américaine. Et parce qu'elle est Américaine, on va dire qu'elle est journaliste pour le New York Post, alors qu'elle elle ne travaille pas pour les États-Unis, rien. Mais c'est sûr que les États-Unis sont alliés de la France. Mais c'est vraiment les Français qui inventent cette image. Donc, elle est supposément journaliste pour le New York Post. Qu'elle peut se promener, poser des questions. Les gens ne la suspectent pas. Elle boite. Elle fait un peu pitié, la pauvre dame. Donc, généralement, ça lui permet dans plusieurs langues de poser des questions qui ont l'air niaiseuses.
Endort la méfiance, là!
Les gens la suspectent pas trop. Mais tu sais qu'on a su par la suite que les Allemands en particulier s'envoyaient des messages sur c'est qui la femme qui boite ou la boiteuse, parce que ça va être son surnom, mais ils sont pas capables de savoir c'est qui. C'est pas la seule femme qui boite à l'époque, là. Tu sais, je veux dire, on boite pas juste parce qu'on a une prothèse. De toute façon, elle a des grandes jupes. Les gens peuvent pas deviner qu'elle a une prothèse nécessairement en dessous, là. Mais on a su plus tard, quand les archives allemandes vont commencer à être rendues publiques, qu'elle était identifiée comme étant la boiteuse, mais ils n'ont jamais su c'était qui. Ça, elle, ils n'ont jamais réussi à trouver son identité. Les Français ont vraiment réussi à la protéger. Fait qu'elle a vraiment pu fournir plein d'informations sous cette espèce de couverture de journaliste américaine. Et ils n'ont jamais su son identité. Et quand les Allemands vont occuper la France, les Français vont tout de suite l'envoyer en Espagne par les Pyrénées. Écoute, elle a une prothèse.
Puis elle a traverser les Pyrénées.
Pour aller en Espagne.
Je ferais même pas ça aujourd'hui, puis j'ai deux bonnes jambes.
Pour aller en Espagne, et parce que la France est occupée par les Allemands et que là, c'est délicat, ben là, elle va toujours travailler pour les services secrets, mais cette fois-ci pour les Américains. Donc, elle va finir avec les services secrets américains. Et elle va avoir... D'ailleurs, ça a été la première... Si je me trompe pas, là, ça a été la seule femme pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a eu... une croix d'honneur pour héroïsme extrême ou extraordinaire ou quelque chose comme ça. Tellement, tu sais, ses chances de survie, on s'entend, dans ces circonstances-là, étaient pas élevées.
Hey, non, là, si elle se faisait pogner, oublie ça, là. Ouais. C'était fini.
Qu'elle a eu les honneurs, d'où pourquoi on la connaît aujourd'hui. Encore une fois, c'est ça, c'est quand on va honorer le travail de ces femmes-là après coup, là, on sait qui elles sont. Mais tu sais, est-ce que c'était vraiment son vrai nom et tout ça, tu sais, quand même des petits débats là-dessus. C'est le nom qu'on connaît, mais peut-être que d'origine, de naissance, elle avait un nom autre aussi. Donc ça, c'est pas toujours clair. Ouais.
Puis là, tu m'as dit que t'en avais 5, on en a fait 4. C'est qui?
Là, il en reste une que tout le monde connaît.
C'est qui?
Toujours dans la Deuxième Guerre mondiale.
Joséphine Baker.
Baker. Josephine Baker, exactement.
T'as pas fait celle que j'allais dire. Il y en a une que j'allais dire, mais on peut y revenir après, oui.
Mais ce sera toi qui la feras. Écoute, moi, j'ai fait un choix parce que des fois, on manque de temps. C'est surtout ça.
Mais non, mais j'ai aucune information. J'ai juste son nom. Fait que je peux juste vous dire d'aller lire dessus. C'est tout.
Mais oui, tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand on s'intéresse à Josephine Baker, tu sais, c'est on est, oui, dans l'époque de la grande ségrégation aux États-Unis et tout ça, mais tu sais, c'est une femme qui est sexy, qui est belle, qui sait danser, qui sait chanter, qui s'affirme comme femme noire et qui est une vedette des cabarets français, même si on est plus tard dans le temps, on n'est pas à l'époque de la Belle Époque, on est avant la...
Tu sais, dans ma tête, Josephine Baker, c'est une Amazone. Pour moi, elle représente tout ce que sont les Amazones. Grande, belle, assumée, forte, décomplexée. Pour moi, c'est vraiment un modèle féminin incroyable.
Ah, elle est fabuleuse, mais elle est humaine. Je pense que c'est ça aussi qui fait sa grande distinction parce que, tu sais, c'est sûr que là, à Paris, elle devient la grande vedette des cabarets un peu partout. Et elle va être naturalisée française. Josephine Baker va avoir la citoyenneté française, ce qui va lui donner quand même un avantage. Et à un moment donné, ben là, il y a un agent de renseignement des services secrets français qui dit « Wow, elle parle aussi plusieurs langues, elle est aimée, elle est adulée. On pourrait pas suspecter qu'elle puisse être une espionne. » Et en même temps, c'est quelqu'un qui, non seulement veut se battre pour le droit des Noirs, il veut aider les Noirs, mais ne tolère pas, en fait, ce qu'on fait aux Juifs non plus. Là. Donc, on est vraiment dans un sens de justice qui est très profond, parce qu'elle aurait pu s'en foutre. Elle aurait eu les moyens, les capacités de le faire, mais ça fait, en 1939, ça fait quelques années là, qu'elle a la citoyenneté française, et on lui demande, est-ce que tu accepterais, tu sais, dans les cabaret quand tu rencontres des Allemands, des choses comme ça, d'essayer d'obtenir de l'information puis nous transmettre l'information. Essentiellement, c'est ça qu'on va lui demander. Puis elle se dit « Oui, oui, vous m'avez permis, moi, une femme noire qui aurait été complètement écrasée aux États-Unis, d'avoir une grande carrière et d'être aussi connue. Je vais vous aider à vous libérer. Là, je vais le faire. » Elle n'a vraiment pas hésité. Et elle aurait dit quelque chose comme « Je suis prête à vous donner ma vie. » En voulant dire « Vous m'avez permis la vie que j'ai là. Mais même si ça s'arrêtait aujourd'hui, ça valait la peine. Puis je suis prête à le faire. » Fait que, tu sais, wow, c'est ça, je t'ai dit, l'humanité, le service humain. Là. Fait que, tu sais, les Français vont beaucoup s'arranger pour qu'elle soit invitée dans des soirées de diplomates, tu sais, où t'as des Italiens, des représentants de Mussolini, des représentants de l'Allemagne, pour avoir le plus d'informations possible, et essayer de voir, oh, lui, est-ce que c'est un homme en qui on peut faire confiance, ou est-ce que quand tu t'en approches, puis que tu le flattes sur le torse, t'as-tu remarqué quelque chose qui pourrait l'indiquer qu'il est d'une autre nationalité que celle qu'il prétend, parce qu'elle a cette possibilité d'avoir une proximité physique sans coucher. Ici, on n'a pas une grande horizontale là, avec Josephine Baker, mais elle saisit.
Comment, en touchant le torse de quelqu'un, tu peux savoir d'où il vient?
Non, mais mettons, tu sais, que t'as un uniforme, puis que là, il a l'air d'avoir un uniforme, je sais pas, moi... français, puis que là, tu sais, elle s'approche et tout ça, elle peut remarquer une médaille, elle peut remarquer des choses qui pourraient laisser penser, oups, cet homme-là peut-être pas celui qu'il dit qu'il est.
Je comprends.
Elle va aussi être très attentive aux accents, tu sais, des choses comme ça, parce qu'elle va être en contact quand même assez personnel avec ces hommes-là quand elle danse, mais elle voit comment ils se comportent entre eux, elle peut voir s'il y a des messages qui sont passés, donc c'est quand même assez exceptionnel, et on l'envoie en Afrique du Nord, donc elle est pas restée en France là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On l'a envoyée en Afrique du Nord. C'est les Italiens qui sont là, entre autres. Puis, parce que les gens veulent la voir, les soldats veulent la voir, ceux qui sont sur place, ben tu sais, elle arrive souvent à faire semblant qu'elle danse ou qu'elle s'amuse avec un soldat qui glisse sous sa robe de l'information. Elle amène ça dans sa chambre d'hôtel et plus tard, elle va retransmettre l'information. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça qu'elle servait à passer des documents. Puis, tu sais, des documents qui souvent étaient écrits à l'encre sympathique. Fait que souvent, si quelqu'un arrêtait Josephine Baker en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a donné? » T'es comme « Ah, une partition de musique! » Puis effectivement, c'était une partition. Mais à l'encre sympathique, il y avait un autre message. Que si tu passais le document à la chaleur, il y a un message.
Dessous,
il y a un message secret, c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, pour avoir fait tout ça, elle a eu la Légion d'honneur. Et c'est quand même récent, en 2021, c'est quand même la première femme noire qui rentre au Panthéon français. Hein. On lui a donné cet honneur-là. Ouais.
OK, Josephine Baker. Mais on a quand même un beau tour du monde des espionnes, je trouve. Mais tu vois, moi, celle que j'allais dire, peut-être que tu la connais ou peut-être pas, c'est l'agent Sonia en Russie, URSS.
C'est juste un nom que je connais, mais j'ai jamais fouillé dessus. Mais le nom, oui, c'est tout.
Mais c'est ça, là. Mais moi non plus, je peux pas en dire plus parce que j'aurais peur de dire n'importe quoi et que ce soit pas avéré. Mais si je ne me trompe pas, c'est genre une des plus grandes espionnes de l'ex-URSS qui a justement été transmettre bien des secrets à l'Union soviétique. Mais je vais quand même continuer un petit peu si vous vous en voulez plus sur le sujet des espionnes. Il y a un merveilleux balado qui s'appelle Espion, espionne, si je ne me trompe pas, où chaque épisode est consacré à une personne qui a été un espion, qui s'est fait prendre ou non. Et il y a, je vais dire, une dizaine d'épisodes à peu près, mais c'est super bien fait, c'est en français, c'est vraiment sympathique. Sinon, il y a aussi The Agent, qui est une série en balado qui s'intéresse à un agent qui est allemand, mais bon, qui a travaillé pour l'URSS, mais qui a été un agent aux États-Unis et qui a eu sa vie là-bas, qui a eu une famille là-bas, en fait, qui a vraiment inspiré la série télé The Americans. Mais on entend vraiment le vrai monsieur raconter sa vie de « Non, moi, je m'en fous. J'avais une femme en Allemagne, mais j'ai quand même épousé telle personne en Amérique parce que c'était ça qu'il fallait que je fasse. » Tu sais, c'est hallucinant comme vie. Et je voulais dire aussi qu'il y avait d'autres espions que je connaissais, mais qu'eux, c'est un couple. Les époux Rosenthal.
Ben, des couples d'espions, il y en a beaucoup, c'est ça. Ça, on pourrait faire un épisode aussi, mais comme je te dis souvent, ça fait en sorte que les femmes passent plus dans l'ombre parce que le mari obtient plus la visibilité. Tandis que là, ici, on a toutes des femmes qui ont agi en étant souvent soit célibataires ou pas mariées ou grandes horizontales ou divorcées, tu sais. Fait qu'elles se démarquent. C'est un peu l'idée de la sélection.
La lignée, moi, qu'on voulait avoir. Ah, puis le balado s'appelle « Espion, une histoire vraie » et c'est fait par France Inter. Donc, c'est un excellent, excellent podcast. Ben,
c'est France Inter, honnêtement. Je ne doute pas de la qualité. Si on arrivait à produire des choses comme ça en radio ici, ils ont un niveau de faut quand même le souligner, tu sais, au niveau de la radio d'information de fond, là. Je veux dire, France Inter, France Culture, tu sais, c'est des beaux petits bijoux... À cet égard-là.
À aller chercher, oui! Mais là, Evelyne, on va passer à notre minute d'histoire sexy. Alors, Evelyne, pour notre minute d'histoire sexy, je suis quand même contente parce que c'est moi qui ai trouvé le sujet, mais je sais pas c'est quoi. J'ai hâte que tu m'en parles, mais c'est moi qui ai trouvé le sujet.
Tu sais trouver le sujet, mais tu sais pas de quoi on parle.
Mais en fait, c'est que je lisais un article, c'était même pas pour le podcast en plus, je lisais un article sur, je me souviens même plus quoi, et je suis tombée sur ce petit paragraphe qui mentionnait que la littérature érotique n'existe pas depuis Fifty Shades of Grey, là, dans le sens que ça existe depuis excessivement longtemps. Évidemment, ça a évolué avec le temps. On n'est pas... tu sais, ce qui était sexy en 1700 n'est pas la même chose que la littérature érotique aujourd'hui, mais bon, que ça ne date pas d'hier. Et là, semblerait-il qu'un des best-sellers en littérature érotique aurait été écrit par un pape...
Avant qu'il soit pape.
Mais quand même, quel homme de Dieu écrit des cochonneries?
Un Médicis.
OK, c'est bon, j'ai tout compris. La minute
dans
histoire,
cette,
c'est
dans cette
fini.
Lignée, on va dire ça comme ça. C'est pas, il n'est pas directement lié au Médicis, mais on est dans le même genre de lignée. On est au 15e siècle, tu ne seras pas surprise. À une époque où tu deviens pape parce que ta famille est puissante et que tu as les contacts et non pas pour ta dévotion. C'est pour ça que c'est pas si étonnant que ça. Parce que de son vrai nom, il s'appelle Enea Silvio Piccolomini, si je me trompe pas, qui vient d'une famille florentine associée entre autres aux Médicis et qui est un amoureux des arts, de la littérature. Mais tu sais, c'est une époque où il faut absolument, quand tu es une famille puissante, qu'il y en ait au moins un qui soit placé dans les plus grandes position de l'Église, donc soit cardinaux et éventuellement dans l'espoir que tu deviennes pape. Là, tu sais, les Médicis, les Borgia, etc., on peut faire une grande liste de gens qui ont fonctionné comme ça. Alors, comme il est d'une famille de très haut niveau, on va dire ça comme ça, Florence, ben lui, c'est pas la papauté qui l'intéresse, c'est certainement pas l'Église. Et c'est pour ça qu'au départ, il fait des cours en art, en littérature. Il va même faire un petit peu de diplomatie. La politique l'intéresse aussi. Fait que tu sais, il y a comme une vie avant d'être pape, là, mais il y a vraiment une vie avant d'être pape. Là. Parce que il est devenu pape, genre, il y avait quelque chose comme 40 quelques années. Fait que tu sais, c'est ça. Il a eu le temps de s'amuser en masse. Il a eu le temps de baiser en masse. Il a eu le temps, donc, de découvrir le corps humain, le corps de la femme. Et quand il va être nommé pape, il va s'appeler Pie II. Mais donc, avant ça, il est seulement connu comme Ennea Silvio Piccolomini. Là, et c'est lui qui a écrit la nouvelle. C'est plus une nouvelle où on pourrait parler d'un poème. Ça joue entre les deux. C'est une prose, en fait, que ça s'appelle Une histoire de deux amants. Et c'est très, très, très graphique.
Oh, graphique comment? Graphique porno ou graphique?
Ben, graphique, on décrit vraiment le corps de la femme. C'est à la fois sensuel, mais tu sais, il se gêne pas et ça te montre que celui qui va devenir un pape aime le sexe et aime la sensualité. Puis, tu sais, je veux dire, il décrit la poitrine, il décrit le corps de la femme. Puis, tu sais, il vraiment, tu vois qu'il aime le corps de la femme. C'est pour ça que c'est populaire. C'est qu'il fait pas juste décrire ça de manière chirurgicale. On sent que, tu sais, pogner des seins, tu sais. Mais lui, il va le dire dans un plus beau langage que ça. Et c'est ce côté visuel qu'il arrive à donner aux mots qui en a fait un best-seller sur, en fait, même plusieurs siècles, parce que c'est court, c'est intéressant. Et il n'est pas signé Pie II.
Je suis comme déçue. Je suis tellement déçue. Il aurait pu lire ça, là, le jour où il a été couronné pape. Il aurait pu lire son petit poème sexy.
Parce que juste Rodrigue Borgia qui aurait peut-être pu risquer ça pas encore, là. Alors, fallait pas exagérer. Fait que voilà. Tu sais, quand tu deviens pape dans quarantaine, t'as toute une vie derrière toi, surtout à l'époque. Donc, t'as batifolé en masse.
Fait que là, il a écrit ça, puis après, il est devenu Pie II, puis on en a plus jamais parlé.
Ben, le livre va continuer à circuler, mais sous son nom d'origine.
Je comprends. Ben, écoute, quand même, j'aime ça. J'aime ça savoir qu'un pape était coquin, autre que...
Ah, ben, tu vas le lire. Il y a plein de traductions en ligne de cette histoire des deux amants. Puis, tu sais, je veux dire, voilà. T'sais, pour nous, aujourd'hui, on est habitué à des choses peut-être des fois un petit peu plus encore... c'est même pas une question de hardcore, mais tu sais, pour l'époque, d'écrire le corps de la femme comme ça, puis tu sais, c'est comme en fait un harlequin.
Oh, est-ce que Fabio est sur la couverture?
Non, mais le style pourrait... Je te dirais, de mon souvenir, ça rappelle un peu Harlequin, sauf à l'envers. Tu sais, dans le fond, souvent, dans les Harlequins, c'est plus le corps de l'homme qui va être décrit. Puis là, c'est imagine à l'envers. Un Harlequin pour homme, genre.
OK. Ben, genre. Pourquoi pas? Il n'y avait pas de porno à l'époque, là. Ça n'existait pas.
Mais non!
Et écoute, pour conclure cette minute d'histoire sexy, ben, on va faire tirer un jouet qui porte bien son nom aujourd'hui parce qu'il s'appelle le coquin. Tu vois, je trouve que ça fit avec le pape Pie II. Donc, libre à vous de l'utiliser en passant au pape, là. C'est vraiment... OK, j'arrête ça là. Mais il est super beau pour vrai. C'est un vibrateur rose tête de lapin et qui a 3 vitesses. Donc, vous nous en donnerez des nouvelles. Pour participer, c'est pas compliqué. Allez sur notre groupe Facebook. Evelyne et Gabriel font un podcast. On va poser une question en lien avec l'épisode. Vous avez 24 heures pour répondre à cette question et on va choisir un gagnant parmi tous ceux qui auront participé. Evelyne Ferron, merci beaucoup.
Mon grand plaisir. Écoute, quel beau sujet choisi par nos auditeurs.
Oui.
En espérant qu'on a atteint quand même notre cible, même si on a fait juste 5 espionnes.
Écoute, on fera une partie 2 au besoin. Je pense pas qu'on va manquer de stock. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!
Au revoir!